quête de sens vous est présenté par la Mutuelle Saint-Martin. Mutuelle santé efficace et fraternelle depuis 75 ans. Quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
Et toi, tu es Pam ou pas Pam ? Le pas avant le mariage ne fleurit pas que dans les lycées privés de Versailles. C'est devenu une vraie tendance sur les réseaux sociaux notamment. Derrière cet acronyme se cache bien évidemment la question de l'abstinence jusqu'au mariage. Le fait de ne pas offrir son corps facilement s'illustre d'ailleurs aux États-Unis par cette tendance à porter une bague de virginité, un bijou très en vogue outre-Atlantique pour afficher sa chasteté. Slow sex, chasteté, permettre à son mariage de durer, point d'interrogation, est-ce du vent ou l'argument est-il valable? Bref, en 2025, question que nous nous posons aujourd'hui avec mes trois invités, peut-on coucher tout simplement avant le mariage? Réponse, en tout cas, tentative de réponse et réflexion garantie dans cette émission Cas de Sens, en compagnie de mes trois invités. J'ai la joie de recevoir Florence Escaravage. Bonjour Florence.
Bonjour à tous.
Merci d'abord de vous être déplacée pour vous colter sur ce sujet, parce que c'est quand même délicat, mais heureusement que vous êtes là. Love, vous avez fondé Love Intelligence, je le reprécise, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Florence. Vous avez développé avec un groupe d'experts et de chercheurs depuis des années maintenant une approche pédagogique pour expliquer l'affectivité et ses enjeux. Ce livre, le dernier Love Intelligence que vous avez écrit, 10 piliers pour construire sa vie affective et amoureuse chez Larousse, toujours à découvrir. Nous sommes également en compagnie de Guillaume de Brébisson. Bonjour Guillaume.
Bonjour Marie-Ange.
Bienvenue toujours dans cette émission Cas de Sens. Vous êtes toujours thérapeute de couple, sexothérapeute. Vous avez publié S'Expanouir ainsi que Lettre à mon fils au sujet de l'amour du couple et de la sexualité. Tout ça chez First. Et vous avez créé évidemment avec votre femme Sabrina, que l'on ne connaît pas encore, mais qu'on a l'impression de connaître par cœur, puisque vous en parlez beaucoup dans cette émission. Vous avez créé l'Université de l'Amour pour aider les couples à se reconnecter. Ça, c'est dans le service après-vente, si je puis dire, de ce qui se passe avant le mariage. Bénédicte Deluzereau, enfin. Merci Bénédicte d'être venue.
Bonjour Marie-Ange.
De loin, n'est-ce
mais
pas
oui,
comme toujours,
tout
à toujours
fait.
Un bonheur de vous voir pour de vrai, vraiment. Vous êtes toujours conseillère conjugale, thérapeute de couple. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages. On peut en mentionner quelques-uns, de préférence en lien avec l'émission. On va mentionner Cap sur notre mariage, qui était paru chez Arthège. Et puis, et si on se mariait, comment savoir si l'on est prêt, aux éditions de l'Emmanuel. On peut quand même mentionner le petit dernier, si je ne me trompe pas, qui est garder le cap après mariage. Hein.
C'est ça, tout à fait.
Arthège, voilà, toujours bon à savoir, c'est des fondamentaux, ça. Voilà, alors d'abord, est-ce que vous saviez les uns les autres qu'il y avait cette tendance, que florissait cette tendance, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, Florence ? Le saviez-vous ? Les PAM, hein. Vous saviez ce que vous m'avez demandé avant de rentrer dans le studio, ce que c'était quoi les PAM ?
Oui, alors PAM, je ne connaissais pas l'abréviation, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes pour qui il y a du sens maintenant dans cette notion de se préserver. Donc,
c'est étrange, voilà. Hein, en 2025, où la libération de la femme, la libération
du sexe... Oui, mais ça, c'est quand on pousse le curseur un peu trop loin sur la consommation de l'autre, et finalement, on se préserve peu, on met très peu de sacré dans la connexion sexuelle, et puis on se rend compte qu'au final... Voilà, on se fait mal, on s'abîme et donc on renvoie le curseur de l'autre côté.
Ouais, ça c'est un grand classique effectivement, même sociologique. Hein. Mais on a fait le tour de la question et finalement on s'est rendu compte que c'était mieux avant. Bénédicte, je fais exprès d'être un peu provoque, hein, pardon, au début d'émission.
Mais en tout cas, il y a un gros ras-le-bol, je pense, chez les jeunes. Cette sexualité débridée dont on parle beaucoup, etc. Bah, finalement, c'est pas simple. Et donc ce constat que la sexualité, c'est quelque chose qui se construit, qui, oui, vous avez parlé de sacré. Effectivement, c'est quelque chose qui est donné à l'homme et à la femme, mais on ne peut pas en faire n'importe quoi, parce que ça blesse, il y a des blessures, il y a des traumatismes, et ça, je pense qu'avec les réseaux, justement, c'est quelque chose qui se parle de plus en plus. Donc, cette tendance,
le slow sex,
voilà,
on parle beaucoup.
Je pense aussi que ça vient s'enraciner là-dedans, cette espèce de ras-le-bol, de faire croire, de cette illusion, de faire croire que c'est si simple que ça, la sexualité, alors que dans le fond, c'est complexe, la sexualité, c'est pas si simple. Ça veut pas dire que ce soit... c'est donné à l'homme et à la femme, c'est quand même quelque chose de naturel, mais n'empêche que c'est une construction et ça a à voir avec la relation. Donc, la relation, est-ce que notre relation peut permettre une bonne sexualité ? La question aussi, et c'est ça par derrière.
Moi, je ne comprends pas l'enjeu. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se priver ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume ? Vous connaissiez aussi ça,
Oui, je connaissais la tendance, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec Florence et Bénédicte sur le fait qu'aujourd'hui, il y a, et c'est heureux, une sorte de ras-le-bol de la culture pornographique liée à la sexualité.
Pas dit, mais c'est ça, quoi.
Mais finalement, il y a ça. Il y a une espèce de. Une sorte de. De radicalisation et de caricature de ce que peut être la sexualité entre un homme et une femme, en particulier dans le cadre de la culture porno. Et puis surtout, c'est le seul modèle, finalement, qui est montré et auquel les adolescents ou les jeunes ont accès facilement tant qu'eux-mêmes n'en font pas l'expérience. Alors, ce ras-le-bol, visiblement, il renforce une sorte de peur peut-être, de la sexualité. Et du coup, l'avantage de tout ça, c'est que ça pose la question du sens. Finalement, quel est le sens qu'on donne à sa sexualité ? Vous avez parlé de sacré, oui, il y a la question du sacré, bien sûr. Et puis, il y a la question de la construction, c'est tout à fait vrai. La sexualité se construit, mais elle ne se construit pas sur 6 mois. Elle se construit sur des années et des années et des années. Donc, alors, est-ce que pour autant, il faudrait ne pas faire d'amour avant le mariage ? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette conclusion-là.
D'accord, c'est intéressant mais je pense que
cette tendance, elle vient dire quelque chose et que ce qu'elle dit est intéressant.
Parce que si ça se passe mal, effectivement, c'est ce qu'on se dit souvent, mais en même temps, si ça se passe vraiment très très mal de ce côté-là après le mariage, c'est quand même compliqué. Mais c'est vrai que pendant des années, pourtant, ça, c'était comme ça que ça marchait, Florence. Vous souriez, mais je ne sais pas ce que vous allez dire. Donc, vous me stressez, là.
Non, parce que là, vous abordez le sujet de la compatibilité.
Ouais.
C'est vrai que de temps en temps, on peut avoir envie de... Évidemment, de vérifier la compatibilité sexuelle. Mais le lien du couple, il doit se construire avant la sexualité. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que commencer la compatibilité sexuelle pour voir si on est bien ensemble, ça, c'est sûr que c'est un gros faux pas.
Ouais.
Parce que c'est périlleux, là. La connexion intime...
Pourquoi ?
Parce que la connexion intime, elle demande du lâcher-prise. Du lâcher-prise pour l'homme, ça, c'est indéniable, sinon ça ne fonctionne pas. Et aussi du lâcher prise pour la femme, parce que sinon il y a du stress, on se serre et la sexualité n'est pas possible. Et donc cette immense lâcher prise, cette intimité, est tellement puissante qu'elle nous libère beaucoup. Et donc quelques heures après, quand on qu'est-ce qu'on fait de cette intimité subie alors qu'on n'a pas connecté préalablement peut-être un petit peu intellectuellement, mais pas encore beaucoup émotionnellement, et peut-être pas spirituellement. Voilà, donc c'est ça qui compte, c'est de se dire la sexualité, moi dans mes accompagnements, ce que je dis toujours, c'est qu'elle doit arriver, advenir à un moment donné où on sent que la confiance elle est établie et que l'envie pour les deux se rejoint parce qu'on sent qu'en fait il ne va pas se passer quelque chose de surprenant après la sexualité. C'est-à-dire que on est déjà dans une logique un peu de construction, on sait déjà que on a peut-être un week-end de programmé, ça fait quand même quelques semaines, peut-être quelques mois que on sent que on fait couple, voilà, qu'il y a un vrai projet finalement, et donc il y a cette sexualité. Je parle là pour ceux qui pourraient avoir peur de la sexualité, et voilà, c'est ça qui me semble important. Mais moi, dans mes accompagnements, je vois plus de difficultés chez des femmes qui justement mettent un point d'honneur à la virginité, parfois des hommes aussi,
d'accord,
et finalement parce que peut-être elles se sont senties, elles ont vu des amis un peu souillés par une forme de sexualité trop précoce ou dans la relation en tout cas. Et donc, elles se trimballent avec leur virginité.
Jusqu'à 40-50 ans, c'est ça ?
Possiblement, ou même plus tôt, vous savez, c'est pas facile d'être moderne et d'être vierge. C'est ça qui est difficile aujourd'hui pour les femmes qui sont très... catholiques.
Qui n'ont pas 20 ans, quoi. Parce
voilà,
que là,
pas 20 ans.
Ça a l'air OK pour les jeunes, là, maintenant.
C'est-à-dire qu'au début, c'est un choix, et puis à un moment donné, ce n'est plus un choix.
Ça devient une honte, en fait. Ça, c'est important,
ça devient une
dire.
Honte, et puis alors, on se dit, on n'a pas parcouru tout ce chemin-là pour finalement faire l'acte sexuel trop tôt, et donc finalement, elle se retire un peu, elle se replie, ou alors elle crée chez l'homme, parfois, de la peur, ou de la distance, parce que cet homme-là comprend cette injonction de toute façon, on ne fera rien. Et voilà, donc c'est quelque chose de très complexe. Et si vous voulez bien, sur cette émission-là, je pense que ça serait intéressant de répondre au comment. Alors, comment on fait quand finalement je suis vierge et j'ai déjà un âge très avancé, comment je fais pour ne pas faire peur à un homme avec ma virginité?
Ouais, vous en pensez quoi, juste avant d'aborder ce sujet essentiel avec vous trois? Merci Florence de devancer mon travail, c'est gentil. Bénédicte, d'abord, qu'en pense l'Église? Parce que vous êtes un peu notre garantie catholique, si vous permettez aujourd'hui.
Non, mais moi je pense que là, on parle mariage. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui ne se marient pas. Donc, moi je ne sais pas si la vraie question, c'est avant le mariage ou après le mariage. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut construire une relation pour tout? Parce que ça change tout. Moi, je me dis, un couple qui ne veut pas se marier, ouais, mais qui est vraiment un couple solide, qui a une belle relation et qui a envie de vivre ensemble toute la vie parce qu'ils ont un vrai projet ensemble. Donc là, la question, ce n'est pas tellement avant le mariage, après le mariage. La question, c'est à un moment, quand leur relation est suffisamment solide, ancrée, et qu'ils peuvent se projeter tous les deux sereinement dans l'avenir, ben là, la sexualité, elle va avec cette relation qui paraît stable. Enfin, on voit qu'il y a les éléments pour qu'elle soit stable. Après, pourquoi est-ce
marie
pas?
Vous êtes un obsessionnel, quoi. Mais c'est de la règle, voilà, mais de non, la norme.
Mais non, parce que alors, moi, je suis d'accord avec Florence. Les cathos qui sont obsessionnels. Ah ben oui, mais non, mais évident. Mais je vais vous dire, là, par exemple, j'ai reçu une fiancée. 34 ans, donc d'accord, effectivement un âge compliqué. Elle vient me voir, il devait se marier 4 mois après son rendez-vous, et elle me dit, il y a vraiment quelque chose de bizarre dans notre relation, je voulais vous voir, bon. Et elle me dit, mais mon fiancé, mais il ne me prend pas la main, il ne m'embrasse pas. Oula, tout de suite, je me suis dit, bah là, ça va être compliqué au niveau de la sexualité. Je veux dire, là déjà, elle disait que ça n'allait pas fonctionner. Donc, bon, finalement, elle a pris la décision de se séparer, ah, parce qu'il y avait d'autres choses. Du coup, ça a mis en lumière que dans leur relation, il y avait d'autres choses qui n'allaient pas. Mais très souvent, je veux dire, par contre, un couple, mais catho, bon, qui va se marier, mais ils attendent de se marier 3 ans parce qu'ils sont trop jeunes, ils n'ont pas le truc et tout, mais okay, qui sont sur deux et tout. Ben, si leur élan amoureux les porte l'un vers l'autre et qu'ils sont absolument sûrs et certains de ce qu'ils font, c'est pas la même chose que d'avoir une sexualité débridée. Je couche avec n'importe qui parce que j'en ai envie, puis je me fais plaisir et puis je me prouve à moi-même que je peux, etc. C'est pas ça. Là, ils s'aiment, ils vont vers le mariage. Bon, ben, ils ont des relations sexuelles avant le mariage, mais c'est dans un projet.
Léon XIV ne va pas vous tomber dessus si vous dites ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Écoutez, moi, je pense en tout cas que dans la fidélité à la pensée du pape François, qui dit qu'il ne faut pas mettre sur les épaules des gens des fardeaux trop lourds à porter. En fait, si c'est trop lourd à porter de s'abstenir parce qu'on a un véritable amour l'un pour l'autre et qu'on veut commencer à se donner et à se recevoir, parce qu'en fait, c'est ça la sexualité. On est dans le don et dans l'échange. Bon, si on stoppe ce don, ça veut dire on freine l'amour, on va finir par le stériliser. On va faire plus de blessures, on va faire plus de mal que de bien. Donc, il vaut mieux accompagner cet amour naissant qui a des bonnes... enfin, qui montre des preuves de solidité à l'avenir, pour qu'ils puissent continuer à s'épanouir sereinement. Ouais. Et ça, c'est la croissance des personnes, c'est la croissance de l'amour. Et le pape François nous dit, mais accompagner les personnes, accompagner là où ils en sont, dans la situation dans laquelle ils sont. Voilà, après, on ne va pas juger si jamais...
J'ai l'impression que vous êtes plus radical que Bénédicte, Florence. J'ai l'impression que vous diquiez un peu. Non,
j'ai l'impression que tout le monde est plus radical que moi.
Je pense que vous êtes moins radical. Non, mais c'est intéressant. C'est ça que j'aime bien. C'est très intéressant.
Moi, je suis pour, évidemment, que chacun puisse s'épanouir dans sa vie affective. Et ce que je vois, c'est qu'en effet, cette injonction qui vient quand même de l'Église, d'une foi forte, eh bien, au début, elle est belle, elle porte. Mais à un moment donné, elle empêche et elle piège. Et pourquoi elle piège? C'est parce que la femme, en fait, c'est comme si elle avait une souveraineté intérieure de ma sexualité à qui je vais l'offrir.
Il y a un côté comme ça. Hein.
Il y a un côté comme ça. Mais sauf que cette souveraineté, en fait, elle rigidifie, elle installe souvent la femme dans une fantasmagorie de la sexualité. Parfois, elle va y entacher quelque chose de sale, même sur son désir.
Mais on dit à force d'attendre, c'est ça qu'on dit, Bénédicte, à force de contracter le
truc.
Oui,
mais moi, attendez, elle va voir quelque chose de sale dans la sexualité. Et donc, Je pense que ce qu'il faut, c'est briser tout ça en comprenant que la sexualité, c'est un vrai chemin. C'est un chemin qui prend du temps pour justement s'y complaire, se trouver tous les deux. Et donc, je dis à ces femmes, eh bien, voilà, ce qui compte, c'est plutôt de ne pas mettre la personne au pied du mur. Parce que moi, j'ai vu des relations qui se cassaient parce que l'homme ne savait pas forcément... L'homme, il n'a pas été éduqué à la frustration comme la femme. L'homme, il a, avec son corps masculin, dans ses pulsions, son fonctionnement hormonal, etc., sa construction sociale, il ne sait pas forcément gérer sa frustration. Et donc, quand il va tomber amoureux d'une femme qui va imposer la virginité jusqu'au mariage, il va pouvoir accompagner au début, et puis au bout de quelques mois, il ne va pas savoir gérer. J'ai vu des relations qui, malheureusement, se terminaient à cause de cette incompatibilité.
Bah, c'est un peu ce que vous disiez, Bénédicte, d'une certaine façon. Pourquoi vous n'avez pas l'air d'accord avec ce que dit Florence ?
Si, je n'étais pas d'accord. Non, je n'étais pas d'accord parce que je ne trouve pas que ce soit spécifiquement féminin. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont une vraie difficulté dans la confiance en eux et qui ont du mal à se positionner aussi sur le plan sexuel.
Oui, mais ils ne l'imposent pas. Enfin, en revanche, la différence entre les hommes et les femmes, c'est que la femme, parfois, elle va imposer ça dès le début de sa relation. Tandis que l'homme... c'est pas quelque chose qui va énoncer. Il va pas dire. Il va rarement dire. Je veux que notre sexualité commence à partir de.
L'homme va parler juste après. Le premier amour de Christophe Mali. Pardon de vous frustrer, Guillaume de Brébisson. C'est à vous promis juste après. On se retrouve à tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Le premier amour est toujours le dernier. Ah, le vieil adage au parfum démodé. She's so lovely sur la pointe des pieds. J'ai longtemps hésité. Le premier amour est toujours le dernier. La première gorgée si dure à ravaler. Passent les semaines, s'envolent les années. Je vous ai regretté. Impossible à effacer, difficile à oublier. Le premier amour est toujours le dernier. Vierge de passion, épris de liberté. Au bord du chemin, après des années, je me suis arrêté. Le premier amour est toujours le dernier. Trop vive blessure qu'on a laissé passer. Vous revient au galop, je suis le cavalier. Je suis venu vous chercher. Impossible de refuser. Difficile à éviter. Le premier amour est toujours le dernier. Mamie, ma forêt, élixir sacré, la vie fait son œuvre, ranime les regrets. Vous m'avez tant manqué. Le premier amour est toujours le dernier. Fidèle à mon âme liée, la peur du vide fait tout recommencer. Je suis venu vous chercher. Impossible de refuser. Difficile à éviter. Le premier amour est toujours le dernier. Ah, le vieil adage au parfum démodé. She's so lovely sur la pointe des pieds. Je suis venu vous chercher. She's so lovely sur la pointe des pieds. Je suis venu vous chercher. So lovely, sur la pointe des pieds, je suis venu vous chercher.
Si seulement, je plaisante, peut-on coucher avant le mariage ? Attention, c'est la question que je pose à mes trois invités. Florence Escaravage de Love Intelligence, Guillaume de Brébisson et son université de l'amour, et puis Bénédicte Lussereau, conseillère conjugale thérapeute de couple et tous ses ouvrages. Voilà, je repréciserai vos ouvrages un peu plus tard dans l'émission. Guillaume de Brébisson a des trucs à dire, parce que là, on a dit beaucoup de choses sur les hommes, les femmes, mais alors, qu'est-ce que vous pensez, vous?
C'est un sujet qui est finalement très, très riche. On part d'une question qui a l'air de devoir être répondue par oui ou par non, et puis finalement, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus complexe. Il me semble qu'aujourd'hui, si je schématise un peu, moi, je reçois des femmes qui me disent je cherche à rencontrer un homme, je prends des rendez-vous, et alors, soit après le premier rendez-vous, je couche et je ne revois pas l'homme, soit après le premier rendez-vous, je ne couche pas et je ne revois pas l'homme.
Ouais, c'est un peu
donc
ça.
Là, on a une première catégorie de manière de concevoir la relation et la sexualité qui oppose vraiment clairement des hommes et des femmes. Et puis de l'autre côté, il y a ce sujet de personnes qui veulent se préserver en vue d'un mariage où là seulement elles pourraient s'ouvrir et commencer à pratiquer une sexualité qui serait nécessairement heureuse parce qu'elle serait avec quelqu'un qui aurait décidé de s'engager pour longtemps. Je pense que dans tout ça, ce qu'on voit, c'est une immense angoisse au niveau de la sexualité, quelles sont les conséquences de la sexualité dans ma relation et sur moi. Qu'est-ce qu'on va me demander de faire ou de vivre, et avec qui et dans quelles conditions j'ai envie de le vivre. Je pense qu'il y a vraiment une demande globalement que j'appellerais féminine pour que la sexualité soit le lieu d'une rencontre au sein d'une relation et que par conséquent ce soit quelque chose qui prenne du temps, qui s'enseigne, qui s'apprend, qui se construit au fil des années. Et ça me semble une demande tout à fait légitime et saine. Et puis, il y a un modèle auquel les hommes sont soumis, un peu malgré eux quand même, qui est ce modèle de la performance un peu ridicule qu'on voit en particulier dans le porno, mais qu'on ne voit pas seulement dans le porno. Vous regardez n'importe quel grand film, grand public, et vous verrez que les scènes d'amour sont absolument ridicules.
Est-ce que le porno joue un rôle dans cette espèce de tendance de la préservation ? Vous parliez à l'instant hors antenne, j'ai tout noté, parce que c'était très intéressant. Si vous avez évoqué, ce que vous aviez évoqué, Florence et Bénédicte, autour de la peur partagée, on demandera à Florence, mais Bénédicte, de votre côté, vous évoquiez quelque chose à ce niveau-là.
Que les hommes aussi ont peur de la toute-puissance féminine, et du coup, ils savent plus trop comment prendre les femmes aujourd'hui, et ils se retirent. Donc au niveau de la sexualité, la conséquence d'un homme effacé, c'est dramatique sur la sexualité. Alors que la virilité, c'est aussi de proposer, de pourquoi pas d'être un peu insistant. Et en fait, les femmes, elles aiment ça. Mais quand elles sont dans l'hyper-contrôle, les femmes, du coup, les hommes ne supportent plus et se retirent. Et ils se retirent même de la sexualité, voire ils cherchent à profiter de relations rapides qui n'engagent pas, quoi, qui n'ont pas de sens. Ouais. Alors ce que dit, parce que si on revient sur l'Église catholique, ce qu'elle dit, ce qu'elle pose comme cadre, mais ça n'est jamais qu'un cadre, et un cadre, c'est toujours fait pour être débordé. Mais le cadre, c'est que la sexualité, elle est ordonnée à la procréation et à la communion des époux. Il y a une double finalité. D'accord. À la sexualité. Et donc, la procréation, c'est dans le cadre du mariage.
Ouais.
Voilà. Et dans le cadre du mariage, comment on s'est engagé à s'aimer et à faire que cet amour grandisse, c'est la communion des époux, c'est ça. C'est faire grandir notre amour et du coup créer une communion. Donc la sexualité, dans le cadre du mariage, elle a cette double finalité. Et l'Église dit que quand il y a des relations sexuelles hors mariage, donc avant le mariage, et l'infidélité dans le cadre du mariage, enfin ça recouvre beaucoup de choses, elle dit que ce n'est pas conforme. Alors elle dit, c'est un peu compliqué à comprendre, au projet de Dieu sur l'amour entre un homme et une femme. Voilà, qui est un amour unique, fidèle, ouvert à la vie et indissoluble. Donc il faut que la sexualité soit conforme à cet amour et qui a ces quatre piliers du mariage pour que cette sexualité soit...
En fait, c'est pédagogique, finalement.
Exactement. Et c'est pour ça que quand on est dans « est-ce que je peux, est-ce que je peux pas ?», je dis mais... En fait, moi, je prépare des jeunes au mariage, mais ils ne comprennent rien au sacrement de mariage. Il faut qu'ils comprennent. S'ils ne comprennent rien au sacrement de mariage, moi, s'ils couchent avant le mariage, je dis, mais surtout, j'espère que leur sexualité... Moi, je leur donne des outils pour qu'ils vivent une sexualité dans la tendresse, dans la relation, Mais je ne vais pas aller... Moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils comprennent que le sacrement du mariage, c'est une grâce qui est donnée. C'est un don qui est donné et que comme on reçoit ce don, eh bien, il y a une réponse aussi apportée. Donc, ça engage notre liberté d'homme et de femme. Donc, en fait, c'est ça qui est important de leur faire saisir. Si c'est dénué de toute compréhension, en fait, ça ne veut rien dire de donner des interdits, tout ça. Ça ne correspond à rien, en fait. Ça leur parle
pourquoi
pas.
Pourquoi on fait ça, quoi, Florence, vous disiez tout à l'heure... vous parliez aussi de la... peur en fait du côté des deux côtés, mais une peur en entraîne une autre, quoi, ou un rejet, ou enfin, oui. C'est vrai qu'on n'en finit plus à ce moment-là, effectivement.
Et après, en effet, d'abord, il y a la peur de l'homme quand même, parce que l'homme est souvent associé quand même avec son désir, et on lui prête quelque chose qui n'est pas toujours beau dans son désir,
d'accord.
Et donc, moi, je crois qu'en effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'un homme exprime son désir. Qu'il est pressé ou moins pur ou moins amoureux. Et c'est important qu'il n'y ait pas cette dichotomie entre les hommes et les femmes, que la femme puisse se mettre sur un pied d'égalité, quand bien même elle est puissante, mais sur un pied d'égalité, en se disant, l'homme, quand il exprime son désir, c'est sa manière aussi à lui de langage du corps. En fait, il a besoin de se sentir accepté, il a besoin de connecter intimement par le corps, parce qu'il a parfois moins les mots. Et donc, c'est bien d'arrêter avec cette image de « il veut coucher pour consommer ». Donc, c'est important de comprendre qu'il y a quelque chose de noble aussi dans le désir masculin. Moi, je dis souvent qu'on met parfois toute une vie de femme à comprendre la sexualité masculine. Donc, c'est un chemin qu'il vaut mieux avoir trop tôt que trop tard. Voilà, donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième, c'est que l'homme, lui, il doit en effet comprendre... évidemment, toutes ces questions de consentement et l'homme, en fait, il a besoin d'une main tendue féminine. Il a besoin d'une main tendue qui l'emmène vers plus de vulnérabilité, d'oser se livrer, de pas être dans la performance. Voilà. Donc, la femme, elle prête trop à l'homme. Elle prête trop en imaginant que il peut lui faire du mal ou quoi. Elle aussi, elle a un rôle à jouer. Pour l'amener dans un climat de confiance, pour dialoguer avant l'acte sexuel, pour dialoguer après l'acte sexuel, pour poser aussi ses jalons, c'est-à-dire, je serai prêt à faire l'amour avec toi, j'honore le fait que tu me désires, je suis prête à faire l'amour avec toi un jour, peut-être pas tout de suite, mais dès lors qu'on sent que, on est vraiment aligné dans notre peut-être désir de construire, alors je ferai l'amour toi. Et c'est pas forcément défiant le jalon du fiançailles ou le jalon du mariage. Voilà. Et donc il faut que la femme elle se fasse confiance et qu'elle mette pas l'homme sur une autre hauteur, parce qu'il y a quand même un peu de ça encore aujourd'hui, où il y a quelque chose de sale et où... Mais ça, c'est aussi parce que certaines femmes ont été souillées par l'amour. Certaines femmes, moi, je vois des femmes qui ont fait l'amour dans leur vingtaine et qui, depuis 10 ans, ne font plus l'amour. Et donc, aujourd'hui, elles disent, j'ai pas attendu tout ça pour... Mais en fait, faites confiance, parce que de l'autre côté, vous avez un homme qui est aussi vulnérable, qui a besoin aussi de se sentir en confiance dans ce que vous êtes en train de lui proposer. C'est... Voilà, sinon on lui fait croire que son désir est sale, on lui fait croire que son désir c'est de la consommation, et c'est pas forcément très facile pour lui.
Dans l'air du temps, compliqué, ouais. Guillaume,
il y a vraiment quelque chose là en lien avec d'un côté le cœur et de l'autre côté le sexe. On dit souvent que pour l'homme, offrir son sexe, c'est offrir son cœur, alors que pour la femme, elle a besoin d'ouvrir son cœur pour ouvrir son sexe. Donc on a cette espèce de complémentarité qui s'exprime là. Et il me semble aussi qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'il s'agit aussi de donner un autre modèle. Parce qu'on a aujourd'hui un modèle du type consommation, dont on parlait tout à l'heure. On est en train de débattre d'un modèle plus lié à une foi, qui est un autre modèle. Et puis au milieu, il y a quand même la question de l'amour. Et qu'est-ce que c'est l'amour ? L'amour, ce n'est pas lié spécifiquement à une religion ou à une autre. Mais la religion, elle vient sanctifier, elle vient proposer des moyens de sanctifier un amour présent. Mais l'amour, c'est la base de la sexualité. C'est-à-dire que le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est faire une sexualité sans amour, ça finit par blesser. Ça blesse les femmes en premier lieu, et c'est surtout cette voix-là qu'on entend aujourd'hui, et c'est bien normal. Quand je vois toutes les victimes de violences sexuelles que j'ai dans mon cabinet, je trouve que c'est, que ce soit parlé, ça. Et ça blesse également les hommes, parce que ça les réduit à des êtres qui n'auraient aucun cœur, ce qui n'est pas vrai, dans leur immense majorité, en tous les cas. Donc, finalement, quand on est en train d'essayer de donner des règles sur faut-il faire l'amour comme ci, comme ça, pas comme ça, à telle date, à telle heure, avant telle étape, après telle autre, etc., on enferme ces questions-là dans des questions qui sont finalement, premièrement, injonctives, avec des tentatives d'injonction, et d'autre part, extrêmement cérébrales et théoriques.
Oui.
Or, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est deux personnes qui soit s'aiment, soit ne s'aiment pas, soit sont en train de construire un attachement dont ils ne savent pas encore s'il va être durable ou pas, et une sexualité qui s'ouvre avec ces étapes-là, et dans l'idéal, qui s'ouvre lentement, avec douceur et délicatesse, et sur un temps. Alors, on a beaucoup fait croire aux femmes d'aujourd'hui qu'il fallait absolument coucher pour pouvoir être considérées par un homme, et ça a fait énormément de dégâts. Parce que du coup, les femmes ont suivi un peu un courant, quoi, et elles se sont retrouvées à pratiquer une sexualité qui est coupée du cœur, et c'est bien malgré elles, parce que c'est pas leur nature, mais dans laquelle elles ne se retrouvent pas.
On
n'a pas assez dit aux hommes qu'il fallait faire l'amour avec la femme, c'est-à-dire en se souciant des besoins de la femme, en se souciant de ce qu'elle ressent, etc. Là, il y a vraiment un discours à faire. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien tout le discours autour du slow sex. Je ne suis pas un fanatique du slow sex, mais je trouve que l'intérêt du slow sex, c'est de dire calmez-vous un peu, on va aller doucement, on ne va pas avoir un objectif précis, on va juste se démontrer notre amour.
D'accord.
Voilà, dans la sexualité.
Avant d'aborder les comment on fait, donc pour ne pas, parce que Florence a quand même est venue avec un panier rempli d'idées et d'astuces, n'est-ce pas ? Bénédicte, vous souhaitiez ajouter quelque chose à cette question ?
Oui, moi je voulais rebondir sur ce que Florence a dit tout à l'heure et qui me paraît très intéressant dans notre sujet. C'est qu'elle parlait de l'histoire d'une femme qui a eu une expérience malheureuse dans ses 20 ans. Et ensuite qui s'est retrouvée entre 30 et 40 ans avoir une difficulté à construire une relation. Et en fait, quand l'Église, qui est experte en humanité, je le rappelle, dit pas de relation sexuelle avant le mariage, elle protège ça aussi, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle sait qu'une expérience blessante ou une expérience qui a pu être agréable pendant plusieurs années, mais où l'un des deux a quitté le couple et l'autre s'est senti abandonné, eh bien, ça laisse des traces. Et c'est très compliqué de reconstruire une relation confiante, avec de la tendresse et tout, parce qu'il y a toujours cette peur de l'abandon qui est là. On a peur de revivre la même chose que ce qu'on a vécu. Et puis, on n'est pas vierge, alors pas sur le plan sexuel, on n'est pas vierge d'une histoire avec des émotions, des sentiments, tout ça, ça nous habite. En fait, on toute la mémoire du corps, la mémoire des odeurs, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu. Donc en fait, quand l'Église dit « mon corps, c'est ma personne », et quand je donne ma personne dans une relation sexuelle, c'est moi que je donne, c'est ma personne que je donne. Or, si je donne ma personne, je peux la donner qu'une seule fois. C'est-à-dire que la fois, bien sûr que non, parce qu'heureusement, il y a des histoires. Mais en fait, le raisonnement, c'est ça.
Et en fait,
c'est assez vrai. Parce que quand je recommence une histoire sérieuse avec quelqu'un, et ça peut très bien marcher, eh ben, n'empêche que je m'engage dans cette histoire-là avec ce que j'ai vécu avant et les conséquences de ce que j'ai vécu. Et donc, il faut que l'autre, avec qui je construis une nouvelle histoire, accepte que je ne sois pas totalement libre, vierge, pas au niveau sexuel, mais vierge de toute histoire. Ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Ce n'est pas une question de virginité sexuelle, c'est une question de ce qu'on a vécu dans notre histoire.
Never as good as the first time par Chad et sur Radio Notre-Dame. Merci à vous, tout de suite.
Quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Coucher avant le mariage, on en parle dans cette émission Quête de sens avec mes trois invités, Florence Escaravage, Love Intelligence, voilà, qui accompagne les célibataires et les couples avec tout un groupe d'experts, de chercheurs. Elle a constitué une approche pédagogique pour expliquer l'affectivité et ses enjeux. Ce livre qu'elle a publié il y a quelques temps maintenant, mais qui reste évidemment à découvrir dans les bonnes librairies. Love Intelligence, 10 piliers pour construire sa vie affective et amoureuse chez Larousse. Guillaume de Brébisson, thérapeute de couple et sexothérapeute, qui a publié S'expanouir et Lettre à mon fils au sujet de l'amour, du couple et de la sexualité chez First, lui qui a également créé l'université de l'amour avec sa femme Sabrina, justement pour aider les couples à se reconnecter. Et puis enfin, Bénédicte Lussereau, qui est conseillère conjugale, thérapeute de couple, qui a écrit de nombreux ouvrages dans ce cadre-là, prendre soin de son couple notamment. Et puis on peut mentionner donc ceux qui sont en lien avec l'émission, Cap sur notre mariage chez Arthège, et si on se mariait, comment savoir si on est prêt, aux éditions de l'Emmanuel. On peut mentionner garder le cap après le mariage pour après, quand ça a fonctionné chez Arthège. Voilà, voilà qui est reprécisé. Florence, à vous de parler. Alors, quand on a décidé d'attendre, on fait comment? Est-ce que c'est possible d'abord, aujourd'hui en 2025?
Oh là là.
C'est une réaction à ce qui a été dit sinon.
Moi, vous voyez, dans mes accompagnements, je n'ai vu qu'une fois un homme et une femme complètement alignés sur cette question-là. Et d'ailleurs, ça amène évidemment à précipiter le mariage. Mais voilà, c'était c'était un couple qui allait dormir ensemble, vous voyez, qui gérait aussi toute la tendresse et qui gérait cette beauté du désir qui n'était pas assouvie. Et voilà, et leur mariage était magnifique. Et voilà. Mais la plupart du temps, de ce que je vois, en tout cas dans nos accompagnements, ce sont des femmes qui vont être plutôt attirées par des hommes qui sont libres, qui ont une sexualité épanouie.
Ouais.
Et donc, elles vont possiblement, elles disent, ben voilà, finalement, je peux faire peur, voilà, peut-être que je me suis coupée, elles se sont coupées d'une certaine forme de féminité. Et au final, elles dégagent quelque chose qui ne crée pas de connexion facile. Et donc, elles peuvent attirer parce qu'elles sont jolies, intelligentes, sympathiques, elles ont plein d'humour, etc. Mais à un moment donné, elles se sont coupées d'un lien émotionnel. Et finalement, le couple va rester sur cette notion de compatibilité. Est-ce qu'on est compatible ? Donc, on va rester sur des critères, des attentes, des exigences. Et à un moment donné, ça va faire flop parce que... on va se rendre compte que c'est sympa, on parle, on a des choses à se dire, mais le désir vient pas. C'est pas le désir sexuel, mais l'émotion, le sentiment, la réciprocité amoureuse ne vient pas. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment le grand mal du siècle, c'est-à-dire qu'on a deux postures où chacun arrive avec ses critères et ses exigences, sans plonger dans la piscine du lien, sans plonger dans le langage du corps. Et au final, on reste en se disant, non, il doit, c'est pas lui, c'est pas le bon. Il y a quelque chose qui ne se passe pas. Il y a une connexion qui ne s'établit pas. Donc moi, j'ai plutôt envie de dire vraiment que l'amour, ça n'a rien à voir avec la compatibilité.
Tout simplement.
L'amour, ça a à voir avec ce qu'on engage pour découvrir l'autre, pour aller découvrir sa merveille et pour à livrer soi. Tellement en justesse qu'à un moment donné, la compatibilité, elle va venir parce qu'on l'aura décidé. Et pas une compatibilité où il y a des postures d'observation comme si j'étais un gyrophare, vous voyez. Ouais. Donc c'est ça le grand mal du siècle. Et je pense qu'en comprenant qu'on peut être acteur d'un joli lien, quand bien même la personne qui est en face de moi ne me fait pas un effet waouh, mais au final va me faire cet effet waouh à la troisième fois, c'est ça qu'il faut faire comprendre. Et ensuite, derrière, la sexualité, elle va venir toute seule. Parce qu'il y aura un désir intellectuel, un désir émotionnel, des connexions spirituelles, voilà. Mais pour ça, il faut comprendre qu'on est acteur de la qualité du lien. L'autre est un peu mathématique de ce que j'engage dans mes questions pour aller le chercher dans sa merveille et aussi pour moi me livrer. Donc voilà, au sortir de ces postures où, comme des rails de train, on reste en parallèle sans se rencontrer, parce qu'on s'observe, on parle, mais finalement, la connexion n'est jamais suffisamment émotionnelle pour qu'il y ait, pour qu'on passe ce blocage des critères et des attentes qui sont beaucoup trop éthérées.
Ouais, Bénédicte.
Moi, je suis pas complètement d'accord qu'un homme, il est libre quand il a une sexualité très épanouie et qu'il a eu plein de relations avant de rencontrer la bonne, entre guillemets, avec lequel il va falloir qu'il trouve cette compatibilité. Parce que est-ce qu'il est vraiment libre ? Pas du tout. Il a plein de modèles de comparaison dans la tête. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour lui de rentrer dans cette connexion émotionnelle et intime avec la femme qu'il aime aujourd'hui, parce qu'il a tout ce truc qu'il a déjà vécu avec d'autres. Automatiquement, il y a des comparaisons. Je veux dire, c'est très compliqué de sortir de ça. Donc,
Oui, mais quand on se rend compte à 35 ans, là, moi, je suis très concrète. Là, la réalité, c'est qu'un homme de 35 ans, quand aujourd'hui, je dis libre, il a eu en général d'autres relations.
Ouais. D'accord,
donc, il faut composer avec ça.
Ça ne veut pas dire que sa sexualité est épanouie.
Voilà.
Ce n'est pas parce qu'elle est multiple qu'elle est épanouie. Il faut
dans libre, on met beaucoup de choses.
Voilà. Et peut-être que ce sera plus compliqué pour ce couple-là de construire une sexualité parce qu'il y a un déséquilibre et qu'elle, elle va se dire moi, je n'ai pas d'expérience, machin. C'est pas parce qu'elle a pas d'expérience qu'elle, comme vous le dites très bien d'ailleurs, si la relation
ils vont pas s'aimer,
détendre, mais bien sûr,
aucun rapport.
Mais peut-être que ça va être plus compliqué pour lui justement de rentrer dans une confiance en lui, de sortir tout ce qui lui vient à l'esprit qui peut parasiter la sexualité, parce que notre sexualité, elle est parasitée par toutes nos expériences en fait, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes.
Même si c'est inconscient.
Mais même les bonnes expériences qu'on a eues, si jamais c'est un must qu'il faut retrouver sur le plan émotionnel... Mais c'est compliqué. Et on voit bien d'ailleurs dans les étapes de la vie du couple, une sexualité à 50 ans, évidemment, c'est pas la même chose qu'une sexualité à 20 ans. Et il faut bien faire le deuil de la sexualité de 20 ans pour continuer à avoir une sexualité épanouie à 50 ans. Donc voilà, mais en même temps, je trouve que ce que vous dites, c'est que ça souligne ce déséquilibre entre une femme qui veut garder sa virginité pour s'offrir totalement à son mari et un homme qui, ben voilà, qui est dans l'air du temps, qui est libre, qui a ses expériences, ses aventures qui sont peut-être très belles d'ailleurs, mais qui du coup, le jour, il va vouloir vraiment.
On parle beaucoup des femmes là. Hein. C'est vrai, hein.
Mais moi, je trouve pas qu'elles soient si coincées que ça, les femmes. Hein. Moi, je trouve qu'elles ont vraiment. Elles ont envie d'une sexualité qui a du sens. Elles n'ont pas envie d'être le jouet de l'homme. Et elles ont envie de faire découvrir à l'homme.
Mais les cathos, on en connaît tous. On en parlait avec Florence. Hein. Il y en a quand même pas mal.
Les cathos, il y en a de moins en moins. C'est pas. Enfin, attendez, il y a 5% de catholiques en France. Donc, je veux dire, c'est pas du tout. Ça, c'est pas représentatif. C'est pas représentatif.
Pour dire quelque chose.
Mais Guillaume, non, Guillaume va parler.
Que, oui, s'il vous plaît, merci. je ne suis pas du tout un spécialiste des textes religieux. Mais si je me souviens bien, soit dans la Bible, soit dans les évangiles, c'est pour vous dire que je ne suis pas un spécialiste. Quand on parle de relations sexuelles, on dit connaître. Connaître la femme. Et je trouve que ce terme est extrêmement intéressant. Parce que finalement, la sexualité, c'est quoi? C'est la prolongation de la relation. Et c'est la possibilité d'un approfondissement. Donc ça vient bien dans le prolongement, c'est-à-dire à la suite, et ça permet l'approfondissement. Or, la relation, une relation qui marche, c'est quoi? C'est une relation dans laquelle il y a de la curiosité pour l'autre. C'est ce que vous disiez, Florence, tout à l'heure. Donc, en fait, la relation, c'est la réunion de deux curiosités. Pour ça, il faut qu'elles existent, ces curiosités, à la fois chez l'homme et chez la femme. Quand ce n'est pas le cas, ou quand il n'y en a qu'un seul qui est curieux de l'autre, la relation s'étiole et finalement, je reçois les gens en thérapie de couple.
Ouais.
Mais ils sont les bienvenus. Et c'est seulement cette relation qui permet d'avoir une sexualité, on a parlé de sexualité épanouie, une sexualité épanouie, c'est une sexualité qui est approfondie. Pour approfondir une sexualité, on a besoin d'un seul partenaire à la fois. Et on a besoin de temps. Donc, on a besoin d'une durée, d'une durabilité. Ça, ce n'est pas ce qu'on rencontre dans la multitude de rencontres qu'on peut faire, les coups d'un soir, les aventures courtes, etc., etc. Et dans ce sens-là, je comprends les femmes qui disent « Ah, mais moi, si je n'ai pas une histoire qui dure, alors je préfère me préserver. » Oui, mais en se préservant comme ça, elles risquent, alors je suis désolé pour le terme parce que ce n'est vraiment pas un joli terme, mais elles risquent de se dessécher. Dessécher, ça veut dire quoi? Ça veut dire perdre leur chaleur humaine, perdre leur
vitalité,
leur accessibilité, leur vitalité, leur curiosité de l'autre.
Ouais.
Et là, je trouve que pour moi,
on dirait que vous décrivez la femme de 30 ans de Balzac.
Tout ce qui est modèle un peu cérébral, théorique, du genre il ne faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça, est dommageable parce que justement, ça amène à des attitudes qui sont des attitudes, j'allais dire, pour utiliser encore un autre terme, contre nature. Parce que la nature, finalement, Elle prévoit la sexualité, mais elle prévoit une sexualité paisible, une sexualité douce, une sexualité respectueuse, une sexualité pleine d'amour, et c'est-à-dire une sexualité épanouissante. Ça, c'est dans l'ADN des hommes et des femmes. Quand ils se laissent aller, et pour ça, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Et effectivement, la sécurité, là aussi, c'est quelque chose qui se construit dans la relation. Donc, c'est vrai, la sexualité, elle est plutôt prévue pour être de long terme, quoi, un projet long. Mais ça ne veut pas dire qu'on se marie avant, après, etc.
Moi, j'ai une question pour,
autre chose.
Merci beaucoup, Guillaume. C'est intéressant en plus d'avoir un homme en plus qui le dit. C'est quand même toujours aussi encore plus intéressant. Florence, il y a quand même des petites astuces éventuellement, peut-être pour un petit peu finir l'émission, sur des notes, je sais pas, des recettes, mais des choses à faire, à ne pas faire. Quand même de retarder un petit peu cet élan fougueux qui peut pousser à consommer, si je puis dire, un peu trop vite. Voilà, comment est-ce qu'on peut faire?
C'est sûr que consommer trop vite avec l'idée derrière que si je ne consomme pas, si je ne fais pas l'amour avec lui, il ne va pas me recontacter, ça c'est une très mauvaise idée. Donc moi ce que je dis souvent dans mes accompagnements, c'est que la sexualité, elle doit arriver au moment où il y a un climat de confiance qui s'est établi et où on sent en fait que, les quatre pieds de la chaise, on a différentes connexions. Une connexion intellectuelle, une connexion émotionnelle, c'est-à-dire que on s'est dit des choses jolies sur ce qui nous touche dans la vie, sur le moment qu'on traverse en ce moment, que ça soit professionnel, personnel, sur nos désirs, sur nos rêves, sur nos épreuves passées. On a quand même échangé sur ces sujets-là. Ensuite, il y a une connexion un peu spirituelle, c'est-à-dire qu'on a capté une ou deux valeurs de l'être avec lequel on partage. Ensuite, on a vu qu'il y avait deux termes importants. Un, de la constance dans la relation, c'est-à-dire que la relation, elle est constante. On se quitte le lundi, on sait qu'on va se revoir le jeudi ou le vendredi. Et ensuite, le deuxième terme, c'est l'évolution. On sent que la relation, elle évolue. C'est-à-dire, tu m'as quand même présenté ton voisin, puis ta sœur, puis peut-être on est parti en week-end. Voilà. Et donc, à un moment donné, peut-être que c'est 3 semaines, peut-être que c'est 1 mois et demi, peut-être que c'est 2, qu'importe. Mais ce socle-là est là. Et donc, la sexualité, il n'y aura pas de surprise le lendemain, de mauvaise surprise en se disant « Est-ce qu'il va m'envoyer un SMS ? Et est-ce qu'on va se revoir ?» Voilà, ça ne doit jamais nous arriver.
D'accord.
À partir du moment où on a envie d'être dans une sexualité avec un projet, il faut qu'on couche quand on sait que le lendemain, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on va se revoir, quand bien même cette première nuit peut être un peu difficile, parce que la découverte d'une sexualité, c'est pas toujours une première nuit facile.
Ouais.
Voilà. Et le deuxième point, c'est vraiment que les femmes se mettent sur un pied d'égalité avec les hommes. Parce que là aujourd'hui, c'est plus « je ne veux pas parce que les hommes ne s'engagent pas ». Voilà. Ouais. Et donc, finalement, les hommes ressentent cela, alors que la femme est très puissante et elle peut emmener aussi cet homme dans un monde où elle lui tend la main, où elle pose un cadre de respect, elle pose un cadre à la relation. Il faut qu'elle ose énoncer tout ça. C'est très beau. L'homme, elle va appeler son côté digne. C'est ça qu'elle doit aller chercher chez un homme.
Bénédicte, pour finir.
Mais moi, je voudrais quand même rappeler que la sexualité, elle est source de vie. Alors, dans tous les sens du terme, mais aussi dans la possibilité d'avoir des enfants. Donc, quand j'ai une relation sexuelle avec un homme ou avec une femme, est-ce que j'ai envie qu'il devienne le père ou la mère de mes enfants ? Et ça inscrit dans la durée. C'est-à-dire se poser cette question-là, c'est aussi se projeter comme couple pour une fécondité dans l'avenir, quoi, qui va s'inscrire dans la durée. Et à trop déconnecter la sexualité de la vie et de la possibilité de la vie, je pense qu'on y perd.
Eh bien, je vous remercie infiniment, messieurs et mesdames. Voilà. C'était intéressant, hein. C'était plein de nuances, plein de camailleux, de descriptions de ce qu'est l'amour et la sexualité. Et peut-on coucher avant le mariage ? Je pense que la réponse est dans l'émission. Merci les amis, Florence Escaravage, Guillaume de Brébisson et Bénédicte Lucereau. Merci beaucoup les amis, bonne soirée à tous.